pourquoi j'écris? Enfin, je dis quelquefois parce qu'on m'a dit d'écrire.
Nous vivons quand même un temps où la chose écrite compte de moins en moins, à cause probablement du brouhaha général.
Simplement, l'écriture sèche, nue, comme ça.
Qu'est-ce à dire? Si ce n'est que partout où la colonisation s'est manifestée, des peuples entiers ont été vidés de leur culture, vidés de toute culture.
Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans Du vent dans les pages pour le 8e opus d'une émission consacrée à la littérature. Et comme tous les mois, je suis avec mes acolytes fans de littérature, avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour.
De retour. Parce que
de retour.
Vous n'étiez pas là la semaine dernière.
Et non.
Enfin, vous avez été remplacée au la
main. Avantageusement.
Ah voilà. Et puis Catherine, bonjour.
Bonjour.
Voilà. Alors vous êtes comme d'habitude. Je suis venue avec deux ouvrages dont vous allez nous parler. Vous allez nous parler de l'auteur et puis on va entendre quelques lignes de chaque livre. Qui commence cette fois-ci? Allez,
bon, Anne, c'est, moi,
c'est
alors.
Parti. Bah,
très
oui,
bien, mais j'avais allez. Commencé l'autre fois.
Allez, on y va.
D'accord.
Bien, vous allez nous parler de qui?
Je vais vous parler d'un roman qui est paru en 1929, qui s'appelle David Golder. Et qui est le premier roman connu de Irène Némirovski. Alors, Irène Némirovski, c'est un auteur dont on a parlé il n'y a pas très très longtemps, puisqu'elle a obtenu à titre posthume pour son dernier livre Suisse-Française un prix Renaudot.
Bien mérité.
Mais c'est un auteur qui a été fulgurant tout le long de l'entre-deux-guerres, très ami avec Paul Morand, qui, bien entendu, à la guerre, l'a laissé tomber joyeusement. Et très ami également avec l'éditeur Albin Michel, qui, après Grasset, l'a édité tout du long de sa vie et qui s'est occupé de ses filles après la guerre. Alors, David Golder a une particularité, c'est qu'en fait, c'est avec des personnages fictifs la reprise exacte de la vie d'Irène Némirovski entre 1903 et 1920. C'est l'histoire de... C'est un genre de huis clos. C'est l'histoire d'un couple avec une fille. Ce sont des juifs russes qui sont installés en France, qui sont couverts d'or jusqu'au-dessus du crâne. Et bien entendu, la mère dépense, le père gagne et la mère dépense. Lui est banquier d'affaires. Il vit dans une atmosphère très glauque d'opérations cachées, d'opérations de bourse bizarres, pas très honnêtes, etc. Toujours sur la ligne. Et il vit aussi d'opérations faites dans le dos de ses concurrents, qui lui rendent bien l'appareil d'ailleurs. Elle, c'est une femme qui est vraiment sur le retour, qui doit avoir aux alentours de 60 ans, dont je vais vous parler après. Pourquoi Irène Némirovski a-t-elle écrit ce livre? C'est une sorte de vengeance vis-à-vis de sa mère, plus vis-à-vis de sa mère que de son père, parce que sa mère ne l'aimait pas. C'était une enfant qui n'était pas désirée, qui a été traitée comme une gamine jusqu'à 22 ans, parce que la mère ne voulait pas qu'elle grandisse, parce que quand elle grandissait, ça la faisait vieillir par la même occasion, et qui l'a suppliée à deux genoux de se faire avorter quand elle a attendu son premier enfant parce qu'elle ne voulait pas être grand-mère. Donc David Golder, ça se passe à Paris et à Biarritz, un hôtel particulier à Paris et une villa à Biarritz qui est très fréquentée par toute la jet set de l'époque, des nobles désargentés, des princes russes en goguette, des bourgeois qui s'ennuient et qui viennent chercher là des loisirs gratuits, puisque, bien entendu, tout est aux frais de David Golder. Le livre commence d'une façon absolument terrifiante par une crise d'angine de poitrine dans le train qui le mène à Biarritz. Il est tout seul et tout du long du trajet, il a cette crise et elle est décrite d'une façon absolument épouvantable. On sent que vraiment l'auteur est presque là pour raconter. Donc, il arrive à Biarritz et naturellement, il y a tous ceux qui sont là, accrochés au basque de sa femme. Et sa femme est sur le point de sortir. Alors, je voudrais vous lire une page.
Allez-y.
Quand Gloria rentra, il était près de 3 heures. Sa femme de ménage va avertir Golder qu'ils étaient invités à dîner au Miramar, excusez-moi. Golder hésita, mais il se sentait mieux. Il monta chez lui, s'habilla, puis quand il fut prêt, il alla dans la chambre de Gloria. Debout devant l'immense glace à 3 pans, elle achevait de s'habiller. La femme de chambre, agenouillée devant elle, la chaussait avec peine. Elle tourna lentement vers lui sa vieille figure fardée, émaillée comme une assiette peinte. « David, je ne t'ai même pas vu 5 minutes aujourd'hui, » murmura-t-elle avec reproche. Elle lissa avec précaution ses courts cheveux roux. Elle avait des joues lourdes, comme soufflées intérieurement, touchées par la coupe rose et de splendides yeux bleus, durs et clairs. « J'ai maigri, hein, » dit-elle, souriant, et au fond de sa bouche étincelèrent des dents pleines d'or. « Hein, David ?» répéta-t-elle. « Tu vois comme j'ai maigri. J'ai perdu 5 kilos en 1 mois. » Lentement, pour qu'il pût mieux voir, elle vira sur elle-même, cambrant avec orgueil son corps qui était resté très beau. Des épaules, des bras, une haute et ferme poitrine avaient gardé, malgré l'âge, un éclat extraordinaire, une blancheur mielante, un grain dur et serré de marbre. Et le cou raviné, la chair molle et tremblante du visage, ce fard rose foncé qui prenait des teintes mauves aux lumières, la marquait d'une sinistre et comique décrépitude. Elle s'interrompit. Au coin des lèvres, un peu de rouge avait fondu. Elle saisit le crayon, dessina une seconde fois, lentement, patiemment, la vieille bouche détendue, la forme d'arc pure et hardie que les années avaient effacée. « Avoue que je n'ai pas encore l'air d'une vieille femme, encore, » dit-elle avec un petit rire satisfait.
Ça... Quelle description.
Voilà. Alors, je voudrais à la suite reprendre un texte qu'a écrit Irène Némirovski. On lui demandait des explications sur la façon dont elle avait envisagé son personnage. Avec David Golder, je m'attaquais à forte partie. Je sentais bien le banquier dont je connaissais à l'avance le caractère, le comportement, le langage, pour les avoir observés chez les relations d'affaires de mon père. Maintenant que je n'ai plus du tout aménagé ma mère, je peux avouer ce que savent déjà tous mes amis, que j'avais calqué sur elle le personnage de l'épouse, Gloria, cette femme vieillissante, rapace et fatiguée, avide de tout, d'amants et de bijoux, qui pousse elle aussi son mari vers la mort. Restait à rendre crédible le montage financier du roman, puisque Golder devait perdre une fortune puis en rebâtir une autre. Je potassais la revue pétrolière dont j'ai toujours à Paris un exemplaire, ainsi qu'un livre anglais qui s'appelait, je crois, « L'Empire du pétrole » et sur laquelle je passais des heures. Je ne voulais quitter des renseignements auprès de mon père, dont je craignais les moqueries. Je lui demandais seulement de lire les épreuves. Il me les rendit en disant « Je m'attendais au pire. Eh bien, tu m'étonnes, tu n'as pas fait trop de bêtises.
» Voilà. Donc là, vous venez de lire un passage du Mirador. Voilà, c'est la biographie.
Le Mirador, c'est la biographie par Elisabeth Gilles, qui est la fille d'Irène Némirovski et qui a été reprendre des lettres, des livres, etc., écrits par elle, puisqu'elle a écrit une 15aine de volumes.
Oui.
Voilà, alors ça, c'est pour vous donner une petite idée. Alors, quelle est l'histoire de David Golder, en fait ? Cet homme, il ne vit que pour son travail. Sa femme ne vit que pour dépenser son argent. Et sa fille, pareil. « Papa, j'ai besoin d'argent. Papa, donne-moi de l'argent. » Encore et toujours. Bon. Jusqu'au jour où il explose. Et après cette fameuse crise d'angine de poitrine, il revoit les choses un petit peu normalement. Et il dit à sa femme, « Mais regarde-toi, tu es vieille, tu es moche, tu achètes des bijoux à n'en plus finir, tu es couverte de bijoux, tu es bien plus riche que moi. Je ne vois pas pourquoi je te donnerai, dorénavant, je ne t'en donnerai plus. » Et là, elle est folle de rage, et parce qu'il lui dit, « Dorénavant, je n'aurai de tendresse que pour Joyce, leur fille. » Et c'est là qu'elle lui lance à la figure, « Mais Joyce n'est pas ta fille. Joyce est la fille de Hoyos. Hoyos est son amant, l'un de ses amants. » Donc, ils se séparent et du jour au lendemain, il décide d'arrêter de travailler. Il reste dans son lit, il ne bouge plus. Alors, son chargé d'affaires vient le voir, le supplie à deux genoux, parce qu'il va ruiner des gens par centaines. Et non, il a décidé que non, c'était fini, il ferme sa porte à clé, il reste chez lui. Alors, bon, sa femme fait vendre la maison de Biarritz, elle vend certains de ses bijoux, pas beaucoup, elle fait saisir la maison de Paris, il se retrouve juste avec un matelas, une table et deux chaises, et il continue comme ça, jusqu'au jour où Joyce vient le voir. Elle a vieilli, elle est marquée par le fait qu'elle n'a plus d'argent et qu'elle est obligée de quémander. Et elle vient lui dire, si tu ne me donnes pas de l'argent, je suis obligée de dire oui à ton pire ennemi qui me propose de l'épouser pour payer mes dettes. Et le pire ennemi, il a 65 ans, Joyce en a 25. Alors le père craque et lui dit, bon, alors je vais te faire une rente parce que je ne veux pas te donner d'argent comme ça, je vais te faire une rente. Mais je vais m'y remettre pour pouvoir payer ta rente. Et il se relance dans la course, mais enfin, on ne se relance pas à moitié, on se relance totalement. Mmh. Et son cœur lâche et il meurt à la tâche, sans avoir jamais revu sa femme, bien entendu. D'accord. Voilà, David Golder, c'est quelque chose d'épouvantable.
Ah oui, c'est... Oui.
Mais la vie d'Irène Mirovski, voilà,
c'est ce que j'allais vous demander.
Épouvantable aussi. Alors, Irène... Elle a été fêtée par tous les éditeurs, elle a eu des prix, elle a été invitée partout, elle écrivait des livres qui étaient fêtés par les critiques, etc. Et puis est arrivée la Seconde Guerre mondiale, la poursuite des Juifs, personne n'a jamais levé le petit doigt pour elle. Albin Michel a essayé, mais il n'avait pas d'influence suffisante. Et elle s'est réfugiée avec ce fameux manuscrit de Suite française. Elle s'est réfugiée dans l'Eure et Loir, avec Loiret, avec ses deux filles et son mari. Ils ont été arrêtés séparément, d'abord le mari, ensuite elle. Et les deux petites filles ont été sauvées et ont passé la fin de la guerre dans un couvent à Bordeaux. En 1945, c'est le dernier texte que je veux vous lire, mais c'est un tout petit texte. Janvier 45. Exhumées du terrier où sourdes et muettes, elles se sont tapies pendant des semaines dans l'obscurité. Oui, parce qu'elles avaient été dénoncées, donc les religieuses les ont cachées. Aveuglées par les feux d'artifice de Bordeaux libérés, fusillées de pétards qu'elles esquivaient par bonds et ruades effarouchées comme des lapins qui tentent d'échapper au plomb du chasseur, jetées dans le clapier d'un wagon bondé, elles atterrissent, les jambes encore flageolantes, sur le palier d'un immeuble chic au 24 quai de Passy. Julie tire la chevillette et la bobinette choit. Lui s'entr'ouvre. « Madame Nemirovski, dit-elle, voici vos petites filles qui ont survécu à la guerre et que je vous ramène. »« Je n'ai pas de petites filles, grommelle une voix de loup avec un fort accent étranger. »« L'aînée a une pleurésie, insiste Julie. » »« Il y a des sanatoriums pour les enfants pauvres, répond le loup. »
Et j'ai un souvenir de photographie d'Irène Nemirovski où elle est toujours absolument souriante. Elle est décrite comme quelqu'un étant gay. Très très gay,
très gay, joyeuse et pourtant joyeuse. Dès qu'elle a une plume à la main, elle est je ne dirais pas aigre, mais acide.
Ouais. Amère un peu, peut-être.
Amère, mais c'est surtout dans David Golder. Mais elle a écrit, l'éditeur qui l'a reçu son manuscrit était sidéré parce qu'elle l'a envoyé sous le nom de son mari. Donc il a cherché partout ce monsieur Epstein qui lui envoyait ce manuscrit terrible. Et pas de réponse parce qu'elle était en train d'accoucher de sa deuxième fille. Manuscrit. Bon, quand elle a retrouvé son courrier, elle est tombée là-dessus, elle s'est présentée. Et l'éditeur a appelé toute l'équipe pour qu'ils viennent voir, parce qu'ils s'attendaient à voir avec les capacités et la compétence donnée dans ce livre. Ils s'attendaient à voir un vieux monsieur de 60 ans racontant sa vie.
Et voilà.
Voilà.
Merci beaucoup, Anne. Catherine.
Alors, moi, je retourne dans le contemporain.
Ouais.
Donc, pour vous parler d'un roman, il donne un tout petit peu plus d'espoir quand même, même s'il y a des passages un petit peu durs. En fait, j'ai choisi un roman de Laurent Mauvignier qui avait été publié en 2016, qui s'appelle « Continuer ». à l'infinitif, hein, continuer. Alors ce roman, pour résumer un peu l'histoire, c'est l'histoire d'une femme, la quarantaine, Sibylle, qui aurait dû avoir une vie brillante. On ne sait pas au début du roman pourquoi, mais sa vie a été complètement bouleversée à un moment dans sa jeunesse. Donc on la retrouve à 40 ans avec un enfant de 16 ans. Elle est infirmière et elle se bat pour... peut-être pour elle-même, elle a l'impression qu'elle a tout raté dans sa vie et elle voit que son fils part à la dérive, son fils de 16 ans qui a été récupéré. Elle le retrouve dans un commissariat, il est passé la nuit dans le commissariat, bon, ayant fait quelques bêtises, et elle se dit qu'il va gâcher sa vie, qu'il va tomber dans la drogue et qu'il faut au moins qu'elle réussisse à donner un avenir à son fils. Donc tout le roman part de ce démarrage. Alors le roman peut être lu à plusieurs niveaux. En fait, c'est une aventure, c'est un roman d'aventure, de voyage, donc tout à fait palpitant. Alors que décide-t-elle ? En fait, elle a décidé d'emmener son fils traverser le Kirghizistan à cheval. Bon, toutes les mères n'ont peut-être pas cette idée. Elle est d'origine russe, elle parle russe, donc elle a quelques raisons d'aller dans un pays... plutôt russophone, mais elle part comme ça. Et pour partir comme ça, car elle n'est pas richissime, elle avait hérité d'une maison de famille, elle décide de vendre cette maison, de tout bazarder, et avec cet argent, elle organise ce voyage. Alors il faut dire que Sibylle est seule avec son fils, qu'elle a divorcé, et que tout le monde est contre son projet, à peu près. Hein. Tout le monde trouve que c'est de la folie. Et elle part avec ce jeune garçon, et... Le jeune garçon, autant il idéalise son père, il a des jugements très durs sur sa mère. Donc, on a cette relation assez dure entre la mère... Ouais, hostile, il est hostile. Et puis, il est en pleine crise, j'allais dire d'adolescence, mais en plus, il a un refus de la vie, il ne croit pas en l'avenir, il se détruit, en fait. Alors, je vais juste vous lire début du roman, et après, je vous en parlerai un peu plus, car ce n'est pas qu'un roman d'aventure, bien sûr. Alors, le fils s'appelle Samuel. Elle a pris le prénom d'un des auteurs qu'elle admirait le plus. Vous imaginez lequel ? Samuel. La veille, Samuel et Sibylle se sont endormis avec les images des chevaux disparaissant sous les ombelles sauvages et dans les masses de fleurs d'alpage. Les parois des glaciers, des montagnes, les nuages cotonneux, la fatigue dans tout le corps et la nuit sous les étoiles sur le sommet d'une colline formant un replat idéal pour les deux tentes. Et puis au réveil, lorsque Sibylle sort de sa tente, une poignée d'hommes se tient debout et la regarde. Il lui faut 3 secondes pour les compter, ils sont 8. Et 1 seconde de plus pour constater que les 2 chevaux sont encore à quelques mètres, là où on les avait laissés hier soir. Samuel se lève à son tour, il ne comprend pas tout de suite. Il regarde sa mère et, à l'agressivité qu'il reconnaît dans la voix des Kirghizes quand ils se mettent à parler, à questionner en russe, et surtout parce qu'à sa façon de répondre, il voit que sa mère a peur, il se dit que la journée commence mal. Sibylle parle russe, c'est l'avantage d'avoir eu des grands-parents qui ont fui l'Union soviétique. Mais c'est comme si elle n'entendait rien de ce que lui dit l'un des types. Elle fixe un instant ses yeux bleus, son visage fermé, les autres avec leur tête noircie par le soleil et le travail. Mais qu'est-ce que c'est leur travail ? Sibylle sait qu'au Kirghizistan, voleur de chevaux est un travail qui a une tradition et une noblesse. Alors pour l'instant, elle ne répond pas ou seulement en posant d'autres questions. Et les autres ignorent si c'est seulement sa voix et son accent qui déforment les mots qu'elle dit ou si c'est bien la peur, l'émotion, le danger qu'elle ressent. Pendant ce temps, Samuel s'est levé, il a empaqueté ses affaires, il démonte sa toile de tente et lance des coups d'œil à sa mère. On regarde les chevaux qui broutent de la luzerne un peu plus loin en se disant qu'il faudra se rapprocher. Mais pour l'instant, c'est le cercle des 8 hommes qui se referme, se rétrécissant, se précisant comme les questions qui fusent. D'où venez-vous comme ça ? Pourquoi vous venez dans ce pays où il n'y a rien à faire ? Pourquoi vous avez envie de marcher si haut dans les montagnes ? Qu'est-ce que vous voulez ? Pourquoi vous venez ? Et pourquoi une femme se promène seule avec un garçon si jeune ? Vous n'avez pas de mari ? Il n'y a pas d'homme avec vous, non ? Et vos chevaux, ils ont l'air robustes ? Vous les avez achetés où ? À qui ? Loin ? Au marché à Osh ? À Bishkek ? Sibylle et Samuel ne regardent pas le type pendant qu'il lance ses questions. Elle continue de parler en rangeant ses affaires, des gestes précis qu'elle ne pensait pas avoir déjà acquis. Elle pourrait faire le pactage les yeux fermés. Elle continue de poser des questions pour ne pas répondre à celles dont le débit se fait de plus en plus pressant. On a défait et rangé les tentes, scellé les montures. Samuel détache les chevaux. Les hommes ne disent plus rien. Ils ricanent, observent. On décide de descendre et de rejoindre les paysans qui travaillent plus bas, d'aller vers les fermes. On se le dit en français. Un instant, le français devient comme un mur épais et puissant pour se protéger des autres. Ceux-là qui maintenant parlent entre eux et se mettent à rire d'un rire mauvais et rageur. Quand Sibylle ouvre la marche, elle fend le cercle qui s'est formé autour d'eux. Samuel la suit. Le regard des hommes qui les laissent passer est une barrière plus difficile à franchir que leur corps. Mais le cercle s'est ouvert et forme une ligne flottante. 8 hommes qui les regardent partir et les suivent longtemps. D'abord du regard, puis en marchant derrière eux de plus en plus près. Ils ne lâchent pas si facilement. Ils insistent, toujours les questions sur les chevaux. Mais Sibylle ne répond plus. Elle murmure à Samuel qu'il faut continuer à descendre. Sa voix est si basse maintenant qu'elle chuchote, comme si elle craignait que l'un des hommes parle français. Ce qui est absurde, bien sûr. Elle le sait. Peu importe, c'est plus fort qu'elle. On lui avait bien dit que c'était une connerie de partir avec son fils comme ça à l'aventure. Seulement tous les deux. Mais elle avait tenu bon, elle avait répondu. « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Vous voulez que je ne fasse rien et que je laisse Samuel plonger, lâcher prise complètement ? Non, ça c'est hors de question, je ne le laisserai pas tomber. » Voilà, donc ça c'est le début du livre. Donc vous voyez, on est tout de suite dans l'aventure. Ouais. Dans l'aventure, donc ça, c'est une aventure, une sorte de grande, une grande épopée à cheval. Ouais. Donc il y a vraiment, parce que l'écriture de Mauvigné comme ça, il y a le cheval est aussi important que l'homme. Il y a une sorte de connivence entre l'animal et l'homme. Et puis le rythme du style va aussi au rythme du cheval. Ça peut être au pas, au trot, au galop, en fonction des événements. Donc là déjà, vous avez un voyage. Donc rien que pour ça, le roman vaut le coup. Mais en fait, ce roman, c'est aussi un voyage intérieur. C'est-à-dire qu'on est dans l'intimité autant que dans le monde et l'intimité de ces deux personnages. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que pour toute une partie du roman, on découvre au fur et à mesure, surtout pour Sibylle, ce qui s'est passé dans sa vie, mais on découvre le regard du fils sur sa mère, qui est au début plutôt dur, et le regard de la mère sur son fils, qui a décidé qu'au moins, elle ne raterait pas le sauvetage de son fils pour qu'il ait une véritable vie, même si elle considère qu'elle a raté sa vie. Donc c'est cette relation qui est une fausse relation. En fait, au début, ils se parlent vraiment, il y a une sorte d'hostilité, mais chacun parle de l'autre.
On peut parler d'un voyage de réconciliation entre la mère et le fils.
Alors, bien sûr, c'est une sorte de... Oui, c'est vraiment ça.
Quelque chose comme ça.
Il y a une sorte de sauvetage humain à travers ça, mais une véritable... Alors, c'est à la fois une réconciliation entre... réconciliation entre ces deux êtres, bon, qui ont un lien évidemment très fort, mais autant la mère... c'est comme si la mère allait accoucher une deuxième fois, en fait. Ce voyage est dans une sorte d'accouchement dans la douleur de ce fils. Et pour le fils, c'est la découverte de sa mère. Sa mère est une femme. Sa mère est un être qui a une sensibilité, qui a vécu, qui a raté des choses dans sa vie et qui a envie d'essayer de... Enfin, il découvre même beaucoup de choses sur sa mère. Je ne vais pas vous le dire parce que c'est un des plaisirs du roman. Et donc, c'est vraiment cette relation extraordinaire et cette relation dans un monde par moments merveilleux et par moments très hostile parce qu'il y a des moments très, très durs. Et s'ils s'en sortent, c'est aussi... C'est aussi parce qu'il y a peut-être quelques petits miracles de temps en temps, parce que c'est vraiment un voyage, c'est un voyage initiatique. Oui,
initiatique,
en fait.
Voilà.
Donc c'est vraiment une merveille, ce double voyage. Et c'est aussi un hymne aussi à l'amour d'une mère pour son fils, parce que c'est extraordinaire.
Rapidement, un petit mot sur Laurent Mauvigné.
Alors, Laurent Mauvigné, ce n'est pas son premier roman. Alors, je ne sais plus, mais je crois que c'est au moins son 10e, 12e. Et puis, il en a écrit depuis. Il a toujours cette sorte de recherche, d'essayer de faire des portraits
au plus près.
Il a vraiment envie de décortiquer l'âme humaine. Donc, à travers, évidemment, son ouvrage précédent, son livre précédent, c'était, alors je sais plus, je crois que c'est Autour du monde. C'était l'année précédente, je vérifie. Oui, c'était Autour du monde qu'il avait écrit en 2014. C'était également un roman où il était parti d'un événement, le tsunami. Tout le monde s'en souvient. Et il prenait des personnages partout dans le monde. Qu'est-ce qu'il faisait au moment du tsunami ? Et il faisait ses liens un peu avec tous ces personnages en lien avec ce moment précis, cet événement précis. Donc il y a toujours cet intérêt pour l'être humain et sa façon de vivre, de survivre, essayer de comprendre les replis de l'âme humaine. Ouais. Et bon, là, je vous parle d'un roman, mais je crois qu'on peut lire tout Laurent Mauvigné.
Oui, tout à fait, oui. Voilà. Oui, je confirme.
Voilà, donc je ne vais peut-être pas vous en dire plus, mais alors, même si vous ne vous intéressez qu'à l'aventure, il ne faut pas hésiter. C'est une superbe aventure, une sorte de western dans l'Europe centrale. Et puis, si vous vous intéressez à cette recherche, cette quête du fils par sa mère et de la mère par son fils. Et puis aussi d'autres personnages, puisqu'il y a le père qui va apparaître également. Il y a souvent des retours en arrière. Donc voilà, c'est un roman qu'on lit très rapidement, presque d'une traite, franchement, mais qu'on peut relire, puisque je l'ai relu à l'occasion, mais avec un grand bonheur et avec un superbe style et une superbe langue. Donc je vous rappelle, c'est Laurent Mauvigné. Le roman s'appelle Continuer, ER. Il a été publié aux éditions de Minuit en 2016. Donc aujourd'hui, je n'ai pas vérifié, mais il doit être en poche parce qu'il a eu beaucoup de succès quand il est sorti. Et il est également dans les bibliothèques de Blois. Donc on n'a aucune raison de ne pas le lire.
Merci Catherine.
En tout cas, ça me donne envie de le
lire. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Je suis désolée, je vais vous presser pour les deux derniers ouvrages, Anne et Catherine. Anne, vous y allez ?
Oui, j'y vais. Alors le deuxième ouvrage, c'est un ouvrage extrêmement moderne, pas du tout le même style que le précédent. L'auteur s'appelle Victoria Hislop. Elle a déjà écrit deux ou trois livres sur les conflits grecs. Celui-là porte sur la guerre d'Espagne. C'est l'histoire d'une famille de Grenade, une famille avec quatre enfants, Antonio, Ignacio, Emilio. Antonio est gardien de taureaux. Ignacio est toréador. Emilio est guitariste. Et Mercedes est la petite dernière et la chouchoute, et elle est folle de flamenco. Alors, c'est une famille qui vit tranquillement, les parents ont un bar, et arrive la guerre d'Espagne. Entre-temps, Mercedes a eu 16 ans et elle a découvert un guitariste magnifique qui passe de ville en ville, qui s'appelle Javier. Elle tombe amoureuse folle, d'ailleurs c'est des deux côtés. Et ils prennent l'habitude d'aller de ville en ville ensemble, lui, guitariste, et elle, danseuse de flamenco. Donc la guerre arrive, et comme dans toutes les familles, il y a des pensées différentes. Antonio est républicain, les parents sont neutres. Antonio est républicain, Ignacio, le toréador, est franquiste à fond. Emilio est un charmant garçon qui veut se mêler de rien mais qui a le malheur d'être homosexuel, et Mercedes, elle a 16 ans et elle danse. Malheureusement, les armées franquistes gagnent et ça devient une horreur. Donc Mercedes n'a plus de nouvelles de Javier, et au bout de deux mois elle n'en peut plus et elle part à travers l'Espagne pour essayer de le retrouver. Et finalement, sa recherche, qui est tout à fait négative, l'a fait aboutir en Angleterre, où, au bout de quelque temps, elle s'adapte, elle finit par épouser un Anglais, et ils ont une fille. C'est cette fille qui tout à fait par hasard, prend des cours de flamenco parce qu'elle s'ennuie dans son ménage, elle ne sait pas quoi faire, et avec sa meilleure copine, elle décide d'aller passer une semaine à Grenade. Et elle tombe dans ce bar, ce fameux bar, où un vieux monsieur continue à servir et leur raconte l'histoire de la famille. D'accord. Voilà, c'est bien sûr un roman, mais c'est extrêmement prenant sur toute la partie lutte de la guerre civile.
Oui, tout à fait.
Horreur franquiste et horreur républicaine. Bon, c'est très évident, évidemment, les franquistes qui ont été les plus abominables. Mais enfin, il y en a eu des deux côtés, comme dans toutes les guerres.
Hein. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un roman historique ou pas vraiment ?
C'est un roman, mais basé sur des données historiques. Ouais. C'est vraiment.
C'est pendant toute cette période-là.
Tout à fait. Ça commence en 1931. Ensuite, le livre se termine. Enfin, les protagonistes terminent leur vie dans les alentours des années 60.
D'accord.
Donc, on est bien dans cette partie-là, avec Franco qui a gagné et qui le fait lourdement sentir. aux républicains. Voilà, donc, alors, je donne les titres de mes trois bouquins.
Oui, s'il
donc,
vous plaît.
Une dernière danse de Victoria Hislop, c'est dans le livre de poche. H-I-S-L-O-P, Hislop. David Golder, on le trouve encore dans le livre de poche, de Irène Nemirovski, ça a été réédité récemment. Mm-hmm. Et Le Mirador, que je conseille de lire parce que ça donne une fois de plus une leçon sur les horreurs de l'antisémitisme. Ah ouais, en ce moment, ça se présente tout à fait. Donc, ça s'appelle Le Mirador. L'auteur est Elisabeth Gill, J-I-2-L-E, et c'est aussi dans le livre de poche.
Merci beaucoup, Anne. Catherine, rapidement, le dernier ouvrage.
Eh ben, ce sera rapide, j'ai bien compris. Ouais. Alors, heureusement, je n'ai pas pris un roman. J'ai voulu un petit peu me faire plaisir, et puis j'espère vous faire plaisir. En fait, j'ai ressorti un vieux Gallimard, si je puis dire, puisque ça a été publié, enfin ça a été republié, hein, mais ça a été réédité. Mais c'est un ouvrage qui est paru en 1947, donc chez Gallimard. Ce sont les exercices de style de Raymond Queneau. Alors, donc ça n'est pas un roman, on ne lit pas, enfin on peut, mais on n'est pas obligé de le lire du début à la fin. C'est vraiment une façon de picorer. Alors c'est quoi cet exercice de style? En fait, vous savez que Raymond Queneau est un des co-créateurs de l'Oulipo, c'est-à-dire que fait partie de ces écrivains qui se créer des contraintes, ils écrivaient sous la contrainte, si on peut dire. On pense à Pérec avec son roman Sans eux. Et puis là, donc, il est parti. Alors, en fait, il dit, je dois avoir quelque part la citation, il s'est inspiré de l'art de la fugue de Bach. Il a entendu l'art de la fugue de Bach et il s'est dit, on pourrait faire la même chose, mais avec des mots, avec l'écriture. Donc, c'est parti de là. Je crois qu'il disait qu'il serait bien intéressant de faire quelque chose de ce genre sur le plan littéraire. C'est effectivement et très consciemment, en me souvenant de Bach, que j'ai écrit Exercice de style. Alors, il s'agit de quoi? En fait, on part d'une... Il écrit une petite histoire, mais d'une banalité désespérante. C'est l'histoire, c'est un narrateur qui rencontre dans un bus un jeune homme qui a un long cou, qui est coiffé d'un chapeau mou orné d'une petite tresse qui remplace le ruban. Cet homme échange quelques mots assez vifs avec un autre sous prétexte qu'il lui a marché sous les pieds, je crois. Puis il va s'asseoir à une place vide. Un peu plus tard, il revoit ce jeune homme, cours de Rome devant la gare Saint-Lazare. Et ce jeune homme est en train de discuter avec quelqu'un qui lui dit que ça serait bien s'il remettait un bouton sur sa veste. Donc on ne peut pas faire plus inintéressant que cette histoire. Voilà. Et tout le jeu de Raymond Queneau, donc de partir de cette histoire et de l'écrire sous toutes les formes stylistiques. Alors, je peux juste rapidement lire. Enfin, je vous lirai des petits passages, mais à la fin, vous avez une sorte de
récapitulatif
le du livre. Voilà. Oui. Alors, ça commence par notation. Et notation, c'est l'histoire de base. Et après, il le met avec litote, métaphoriquement, rétrograde, surprise, arc-en-ciel, le côté subjectif, récit, il peut le faire en anagramme, onomatopée, insistance, ignorance, il décline tous les temps, et puis après on en apprend quelques-unes, comme en polyptote, aphérèse, apocope, syncope, etc., etc. Il s'amuse comme ça 99 fois, puisqu'il a écrit 99 versions. Il trouvait que c'était, fallait pas aller au-delà, c'était parfait comme chiffre. Alors l'hypogramme, alors j'en ai même appris, si je vous demandais ce que c'est qu'un lipogramme ou un...
C'est pas la peine.
Je vous le demande pas.
J'avoue, je ne sais pas.
En fait, c'est bref. Bon, alors je vous dirai pas. Vous chercherez dans le dictionnaire. Épenthèse, prostère, etc. Il s'est même amusé à prendre des écritures. Alors, c'est du français, mais pour imiter un anglais parlant français, un italien parlant français. Et quand vous lisez, vous avez vraiment l'impression d'avoir l'accent anglais. Alors, je vais vous en lire quelques-uns rapidement, si j'ai le droit.
Rapidement.
Hein. Ah, elle exagère. Allez. Hein. Alors, si on prend Litote. Nous étions quelques-uns à nous déplacer de conserve. Un jeune homme qui n'avait pas l'air très intelligent parla quelques instants avec un monsieur qui se trouvait à côté de lui, puis il alla s'asseoir. 2 heures plus tard, je le rencontrai de nouveau. Il était en compagnie d'un camarade et parlait chifou. Voilà. Alors, après, je vais vous en prendre un. Alors, il y a télégraphique. Je ne vous le prends pas. Je vais vous finir par celui-là. Injurieux. Après une attente infecte sous un soleil ignoble, je finis par monter dans un autobus immonde où se serrait une bande de cons. Le plus con d'entre ces cons était un boutonneux au sifflet démesuré qui exhibait un galurin grotesque avec un cordonnet au lieu de ruban.
Quel vocabulaire !
Ce prétentiaire se mit à râler parce qu'un vieux con lui piétinait les panards avec une fureur sénile. Mais il ne tarda pas à se dégonfler et se débina dans la direction d'une place vide encore humide de la sueur des fesses du précédent occupant. 2 heures plus tard, pas de chance, je retombe sur le même con en train de pérorer avec un autre con devant ce monument dégueulasse qu'on appelle la gare Saint-Lazare. Oh, c'est sublime ce livre.
Ouais, ouais.
Il bavardochait à propos d'un bouton. Je me dis qu'il le fasse monter ou descendre son furoncle. Il sera toujours aussi moche ce sale con. Voilà, alors je vais vous en lire un autre petit pour finir.
Ah, ouais, ouais,
poésie,
c'est
poésie. Alors maintenant la même chose sous forme de sonnet. Glabre de la vaisselle et tressé du bonnet, un paltoquet chétif au cou mélancolique et long se préparait quotidienne colique à prendre un autobus le plus souvent complet. L'un vint. C'était un 10 ou bien peut-être un S. La plateforme, hochée adjoint au véhicule, trimballait une foule en son sein minuscule où des richards pervers allumaient des londresses. Le jeune girafeau, cité première strophe, grimpé sur cette planche entreprend un Pékin lequel, proclame-t-il, voulait sa catastrophe. Pour sortir du pétrin, bigle une place assise et s'y met. Le temps passe. Au retour, un faquin à propos d'un bouton examinait sa mise.
Et brillant.
Ça continue voilà. Comme ça.
C'est
alors,
brillant.
Si
c'est
vous voulez brillant, vous faire plaisir, alors en plus, rien ne vous empêche à partir de là, vous-même, de
ouais,
vous exercer.
Tout à fait.
On peut tout faire avec ça. Et je peux vous dire que les enseignants en FLE, enfin, qui enseignent le français et langue étrangère, se servent souvent de ce livre parce que vous avez vraiment le texte à l'imparfait, au passé simple. Enfin, il y a tout.
Ouais.
Donc franchement, si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas. Il s'agit d'exercices de style de Raymond Queneau de l'Académie Goncourt, n'est-ce pas ?
Ouais.
Donc ça a été publié chez Gallimard. Évidemment, ça existe en poche et c'est souvent réédité. Et je pense même, pour ceux qui voudraient l'avoir, entre guillemets, sans l'acheter, je pense qu'il doit être sur le site de la BNF, sur Gallica.
En entier.
Alors, je ne sais pas, mais j'ai l'impression.
C'est possible.
Ah oui,
ça se peut.
Ouais.
Gallica nous fait des bonnes surprises.
Alors, c'est
d'accord.
À vérifier. Mais sinon, bon, c'est un petit poche et ça vaut vraiment le coup.
Et sur Kindle, vous ne savez pas
Oh, bah, peut-être.
Avec un peu de chance.
Ah, ouais. Oh, oui,
parce
c'est vraiment
ça, c'est
un classique.
C'est exactement le genre de choses qu'il faut avoir sous la main quand on n'a pas le moral. Hein,
non, mais c'est incroyable. Ouais, c'est vraiment amusant. Alors, il y en a certains, je les ai lus plusieurs fois et je n'ai pas tout compris, je dois l'avouer. Il y a de tout. Il s'amuse à enlever une lettre, rajouter, il le fait en loucher bême, enfin tout.
Je retiens l'hypogramme.
L'hypogramme, je vous interrogerai la prochaine fois, attention.
Interrogation, ouais. Interrogation voilà. Orale, on est à
interrogation
la radio
orale.
Bien
entendu. Bon, merci. Je rappelle les deux titres.
Oui, c'est bien. Ouais.
Alors,
à lire,
je rappelle.
À lire sans modération.
De Laurent Mauvignier, ça c'est tout de suite à dévorer, donc aux éditions de Minuit. Et exercice de style, Raymond Queneau à picorer régulièrement.
Merci.
Merci à toutes les deux. C'était encore bien intéressant. Ça m'a donné envie de lire et relire.
C'est le but.
Vraiment, j'espère que les auditeurs ont la même envie. Du vent dans les pages, c'est terminé. On se retrouve. Je vous rappelle, chères auditrices et auditeurs, que vous pouvez podcaster cette émission sur le site de studiosf.fr. Et mesdames, j'aurai le plaisir de vous retrouver le mois prochain pour d'autres lectures. Abusez, chers auditeurs, de la lecture. C'est toujours bon pour le moral, pour la santé, pour le monde. Et bien, à très bientôt à la radio.
À très bientôt.